Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Pour 8 salariés sur 10, les actions des entreprises en faveur de leur employabilité sont insuffisantes, alors que les syndicats et le patronat sont en pleine négociation sur l'emploi des seniors dans le cadre du pacte de la vie au travail. 83% des travailleurs jugent les actions en faveur de l'employabilité des seniors insuffisantes de la part des entreprises. Et ils sont 76% pour ce qui concerne les actions de la part des pouvoirs publics. C'est ce qui ressort de la 4e édition du baromètre du groupe Apicil et Opinion Way, et la thématique devient épineuse avec le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et par conséquent l'allongement des carrières. Selon la DAR, ministère du Travail, en 2022, les 55 à 64 ans n'étaient que 56,9% à occuper un poste, 44% pour les cadres, alors qu'ils devront être actifs encore 2 années supplémentaires. Mais cela se gâte lorsque l'on examine le taux d'emploi des 60-64 ans, qui atteint le triste record de 36,2%. Et la thématique devient urgente. Patronat et syndicats doivent trouver un accord sur le maintien en emploi et les conditions de travail des salariés âgés dans le cadre du pacte de la vie au travail, qui a pour objectif de maintenir les travailleurs seniors à leur poste et d'atteindre leur plein emploi. Après 12 réunions, cette date avait été repoussée au 8 avril et les partenaires devront trouver un compromis. Les thématiques centrales portent sur l'aménagement des fins de carrière, l'usure professionnelle et la prévention de la pénibilité au travail, la facilitation des reconversions professionnelles, ainsi que sur le dialogue social relatif à cette thématique. Selon l'enquête, l'âge est perçu comme le 4e domaine sur lequel il y a le plus de discrimination en France, 81%. Près d'un collaborateur sur deux a déjà vu un candidat ne pas être recruté en raison de son âge ou être mis au placard pour cette même raison. D'autres ont été témoins d'un refus d'une promotion ou d'une reconversion, tandis qu'un cinquième des salariés ont eux-mêmes été victimes de discriminations liées à leur âge. Et pourtant, les seniors, une richesse pour l'organisation, c'est ce que pensent 90% des Français. La collaboration intergénérationnelle est indispensable à la transmission des savoirs, 92%. Elle favorise l'innovation, 87%, et le développement du mentorat des jeunes, 90%.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Vote des budgets primitifs pour l'exercice 2024 ce lundi 8 avril par le conseil municipal de Villefranche-sur-Saône. Le budget principal et ses budgets annexes doivent être adoptés au cours de la même séance en vertu du principe d'unité budgétaire. Une synthèse des budgets primitifs 2024 avec Thomas Ravier, maire de Villefranche-sur-Saône, premier souhait de l'équipe municipale, l'investissement.
Oui, on a toujours dit qu'on voulait favoriser l'investissement pour plusieurs raisons. D'abord parce que la commande publique, c'est important sur un territoire, c'est ce qui fait le dynamisme de l'économie, des entreprises, de l'emploi. Et deuxièmement parce que quand on investit à la fois dans les équipements qui rendent des services aux citoyens, hein. Quand on investit dans un théâtre, quand on investit dans des équipements sportifs, dans des équipements sociaux, donc c'est un enjeu important. Et puis avec un troisième virage aussi, moi que j'avais annoncé dès le début du mandat, c'est des investissements massifs sur la question de transition écologique. D'abord parce qu'effectivement, on souhaite pouvoir préserver la planète pour nos enfants et on sait que l'action locale est importante dans ce domaine-là, mais aussi parce que je pense que ça devient aussi une question de gestion financière pour les communes, notamment avec l'inflation qu'il y a eu sur l'énergie. Moi je prends toujours cet exemple, mais ces dernières années, on a payé un peu plus d'un million d'euros de dépenses énergétiques supplémentaires en ayant pourtant baissé de 20% notre consommation en volume. Donc, de manière des investissements aujourd'hui, c'est vraiment préparer l'avenir dans tous les domaines.
Un réinvestissement sans augmentation des impôts.
Oui, moi j'avais pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts durant ce mandat, donc je suis attaché à tenir cette promesse et je pense que s'il n'y a pas de crise nouvelle ou supplémentaire, que ce ne serait pas de notre fait, on arrivera à le faire. Je le dis en plus, il y a toujours un petit piège dans les taux d'imposition, c'est qu'ensuite l'État décide des bases sur lesquelles sont calculés ces taux, donc il peut avoir des effets multiplicateurs qui sont des fois bien loin de ce qu'on souhaitait faire. Donc nous, on a plutôt choisi d'avoir un effet effort particulier sur notre propre budget de fonctionnement, sur la manière dont ça fonctionne. Donc ce sera un budget qui va continuer à croître, hein, comme chaque année, mais qui va croître peut-être plus lentement qu'on l'aurait souhaité, qu'on aurait voulu, mais on fait un effort de rigueur budgétaire. Encore une fois, c'est pas une baisse du budget de fonctionnement, mais c'est une hausse peut-être moins positif que des nouveaux projets nous auraient donné envie de le faire. Mais c'est cet effort sur le budget de fonctionnement qui fait que, du coup, on arrive à continuer à investir. On va se réendetter aussi.
J'allais en venir.
Voilà, on va se réendetter un petit peu. Moi, j'avais beaucoup désendetté la commune en 2017 et 2020. J'avais dit dès les élections municipales de 2020 qu'il était important de se réendetter. Pourquoi ? Ça peut paraître paradoxal quand on le dit comme ça. D'abord, je rappelle une chose, c'est que même en se réendettant aujourd'hui, quand on est à moins de 700 euros de dette par habitant dans cette ville, dans les communes de même taille, on est presque à 1000 euros de dette par habitant. Donc on voit qu'on est bien en dessous des moyennes. Ça veut dire qu'on avait de la marge qu'on s'était créée nous-mêmes, hein, par notre gestion rigoureuse les dernières années. On s'était créé une possibilité de se réendetter. Je souhaite qu'on le fasse pour deux raisons. D'abord, ça évite de casser la dynamique économique du territoire en baissant la commande publique. Ça évite de stopper les projets municipaux qui, encore une fois, sont des services à la population, hein. C'est pas des projets abstraits ou théoriques, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie et les services auxquels elle doit. Et puis ensuite, je le dis, je pense que pendant ce mandat, on aura rarement fait, pendant un mandat municipal à Villefranche, autant de travaux qui, j'allais dire, touchent des actions de si longue durée. Le promenoir, ça faisait des décennies qu'il s'était rien fait dessus. On aurait pu se contenter de remettre une couche de gravier, de planter deux arbres supplémentaires, de mettre du nouveau mobilier urbain. Non, on a voulu aller dans un projet vraiment en profondeur. On va s'attaquer au marché couvert. Depuis 1933, ce marché, à part de la peinture, il n'a jamais eu de restructuration profonde. La halle Bointon, qui a été transformée de piscine en gymnase à la fin des années 70, début des années 80, elle n'avait pas eu de travaux importants. La Bourse du Travail, on avait recollé des placos sur des placos alors qu'il y avait des fresques du XVIIe siècle dessous. Quand s'attaque à ces bâtiments, c'est vraiment du patrimoine où les travaux vont être faits pour un demi-siècle. Donc c'est normal qu'on s'endette aussi pour ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les Caladois d'aujourd'hui qui payent l'intégralité des frais de chantier qui vont profiter aux Caladois qui viendront après-demain et pendant les 50 prochaines années.
Faire des économies en réduisant les dépenses.
Les économies, là encore une fois, on a réalisé 42 millions de dépenses les dernières en budget de fonctionnement. Cette année, on prévoit un petit peu plus de 43. Donc on n'enlève pas des choses qui existent. Alors, des fois, on peut en enlever parce qu'on considère que ça ne marchait pas et on en crée d'autres à la place. Mais si vous voulez, il n'y a pas une des coupes budgétaires dans tous les services pour diminuer par rapport à ce que les gens avaient l'année précédente. La question, c'est plutôt dans tout ce qui pouvait être sollicité, demandé de création nouvelle, de tempérer tout ça, d'aller à un rythme différent parce que le contexte économique n'est pas bon. Et je rappelle que ce contexte économique n'est pas bon, c'est un contexte économique qu'on ne choisit pas. On s'est enquillé quand même 1,5 million de dépenses supplémentaires à cause du Covid. On s'est enquillé ensuite plus d'un million de dépenses énergétiques supplémentaires sur plusieurs années à cause de la crise en Ukraine. Dans nos cantines, c'est quasiment 500 000 d'euros de dépenses supplémentaires qu'on n'a pas répercutées sur les prix de cantine à cause de l'inflation. Les émeutes du mois de juillet, les dernières dans toute la France, c'est une augmentation des coûts d'assurance pour les collectivités qui est énorme, c'est 250 000 euros par an. Donc, on a toutes ces mesures exogènes qu'on n'a pas décidées, comme par exemple l'augmentation de l'indice du point des fonctionnaires, même si franchement je trouve qu'elle était méritée. Mais en tout cas, on ne l'a pas choisie. C'est-à-dire quelqu'un à Paris décide de faire cette augmentation, c'est nous qui payons. Donc ça nous a beaucoup contraint les collectivités locales pour cette année et pour les années à venir.
Et enfin, un rappel des aménagements en cours et les prochains à venir.
Alors, comme tout milieu de mandat, on poursuit les grands chantiers vers Morel, Promenoir, Écoquartier, l'école Jean Massé. Ensuite, on va démarrer effectivement des nouveaux travaux, à la fois dans le domaine scolaire, avec la rénovation de l'école Pierre Montet à Belleroche, où là aussi on a une haute ambition sur le plan énergétique, environnemental. On continue à végétaliser nos cours d'école. On fera celle de l'école Condorcet cette année. On espère aussi pouvoir, je dis bien, on espère, parce qu'on a fait des problèmes techniques là-dessus, financiers, pour lancer l'école Albert Camus, donc un vrai dynamisme sur nos bâtiments scolaires. On va aussi investir dans le sport, alors à la fois en rénovant des beaux équipements qu'on a, comme le club de pétanque, qui malheureusement a un toit en grande difficulté, difficulté, en grande faiblesse. Le Stade Montmartin, qui est l'équipement de plein air le plus utilisé, je crois, en termes d'heures, à la fois par les trois clubs de sport, de foot de Villefranche et aussi par les scolaires. Mais c'est aussi de poursuivre tous ces investissements qui se voient pas toujours, mais qui sont essentiels, à la fois sur nos voiries, sur notre cadre de vie, sur les aménagements urbains qui sont extrêmement importants.
En synthèse, une non-augmentation des taux d'imposition, le maintien d'un service public renforcé et solidaire, une évolution contenue des dépenses de fonctionnement, un haut niveau d'investissement sur le mandat et un niveau d'endettement maîtrisé. Événement agroécologie, les entretiens du Beaujolais et les assises de l'agroécologie en Beaujolais. Le vendredi 12 avril au lycée Bel Air à Belleville en Beaujolais sur le thème « Le carbone, ça détonne ». Une journée avec des experts et chercheuses sur la question. Pour nous en parler, Sophie Pénavert à la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE de l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, et du Sicarex Beaujolais.
Cette année, c'est même deux événements du Beaujolais qui se mettent ensemble. Les assises de l'agroécologie en Beaujolais, troisième édition, et les entretiens du Beaujolais qui en sont à leur 38e édition, je crois bien. Les partenaires, c'est la Sicarex Beaujolais, l'IFV, Institut français de la vigne et du vin, la Chambre d'agriculture du Rhône et l'interprofession du Beaujolais. C'est au lycée Bel Air. Alors, ces entretiens du Beaujolais, cette année, la thématique, c'est l'empreinte carbone des entreprises du vin. On va balayer tout un tas de bonnes pratiques pour réduire cette empreinte carbone. Et puis, on va les balayer avec les experts de l'IFV qui travaillent sur ce sujet, qui sont Émilie Adouard, Jean-Yves Cahurel et Hugo Luzy.
Quelle est l'empreinte de carbone?
L'empreinte carbone, oui, c'est les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la production du raisin jusqu'au verre du consommateur. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on prend en compte non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les pratiques qui permettent de séquestrer du carbone dans les sols viticoles.
Alors, quand lorsque l'on parle de séquestrer, c'est-à-dire les garder pour ensuite les utiliser. Non, c'est ça, mais à bon escient.
Oui, c'est-à-dire on stocke du carbone, ça évite qu'il parte dans l'atmosphère. Et puis, il est d'autant plus intéressant, ce carbone qu'il apporte, de la matière organique, de la structure au sol. Et donc, il est bon pour le raisin.
Les bonnes pratiques pour réduire son empreinte carbone.
L'idée, c'est de mettre en avant tous les calculs de l'empreinte carbone et les bonnes pratiques qu'on teste sur le domaine expérimental de la Sicarex Beaujolais qui s'appelle le Château de l'Éclair.
Et donc, j'imagine que vous allez nous donner quelques expertises, quelques résultats. C'est ça, c'est le but. Hein.
C'est ça, les résultats de nos projets d'études. Et puis, l'idée, c'est que les participants repartent avec en poche les 3-4 bonnes pratiques à mettre en œuvre chez eux sur leur domaine.
Alors, les participants, puisque vous les nommez, c'est ouvert à tous, hein, finalement. Hein.
Oui, ouais, tout le vignoble du Beaujolais, qu'on soit vigneron, qu'on soit caviste, qu'on soit négociant, qu'on soit un acteur du conseil, qu'on soit un jeune étudiant au lycée, un enseignant du lycée, c'est vraiment ouvert à tous.
Les entretiens du Beaujolais, première partie, feront place à une seconde partie, les assises de l'agroécologie, sur le même thème, avec une chercheuse de l'INRA.
Oui, cette année, les assises de l'agroécologie, toujours sur ce thème du carbone, on va creuser le carbone stocké dans les sols. On aura parlé d'émissions de gaz à effet de serre le matin et on va vraiment se concentrer sur le carbone des sols l'après-midi avec une invitée de marque qui vient nous voir, qui est Isabelle Basile-Dolch, qui est chercheuse à l'INRAE. Elle nous parlera des recherches qui sont menées au laboratoire CEREJ sur ce qu'on appelle le fameux 4 pour 1000 de carbone en plus dans les sols. On serait en capacité de compenser les émissions de gaz à effet de serre.
Elle
reviendra sur le calcul, sur les feux d'habilité, le potentiel, avec un jeu, un moment interactif autour de ces questions générales et puis justement les mécanismes qui contrôlent la dynamique de carbone dans les sols. Ouais, ça promet d'être sympa. Le CEREJ, c'est le laboratoire de recherche où officie Madame Basile-Dolch.
En Provence, d'accord, très bien. En conclusion, l'un des principaux intérêts des assises.
Ce qui est intéressant avec les assises de l'agroécologie, c'est qu'on fait venir un grand témoin, ou une grande témoin en l'occurrence, qui vient nous apporter sa science, Isabelle Basile-Dolch. Et puis après, on aura une mise en pratique concrète avec des acteurs du Beaujolais qui vont montrer combien et comment on peut stocker du carbone dans les sols viticoles du Beaujolais. Et puis la Chambre d'agriculture qui nous parlera de comment est-ce qu'on peut démarrer, quel levier concret activer, quelle aide aussi aussi sont disponibles pour les vignerons qui veulent se lancer dans des pratiques de stockage carbone ou agroécologique.
J'allais vous effectivement vous parler de ces fameuses aides, bien sûr, parce que la réflexion, je pense qu'elle s'est déjà installée depuis très longtemps, et même il y a des gens qui ont fait le pas déjà, enfin des producteurs qui ont déjà beaucoup fait le pas, mais c'est vrai que l'aide est essentielle dans ce type d'enjeu.
Oui, tout à fait. Les collectivités territoriales mettent en place des aides et la Chambre d'agriculture est disponible pour montrer comment les obtenir et appuyer les vignerons pour faire les dossiers.
L'agroécologie en Beaujolais, troisième assise le vendredi 12 avril à partir de 8h30 sur le thème Le carbone, ça détonne au lycée Bel Air à Belleville en Beaujolais avec la participation d'experts et une chercheuse de l'INRA.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.